Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, bonsoir, Mohamed et Mathieu. Salut à tous les cinq.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, le procès d'Alexandre Benalla, la liberté de nommer son fils Mohamed et la fin d'un faux suspense.
J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République.
Le moment était attendu.
Après des mois de faux suspense.
La fille d'immigrés espagnole arrivée en France à l'âge de 3 ans.
Elle se lance avec son équipe de campagne.
La course à la présidentielle, j'ai rassemblé, j'ai écouté.
Ce sont des propos qui blessent.
Dire qu'on n'a pas idée d'appeler son enfant Mohamed, ça me choque.
Ça veut dire qu'un prénom ferait un destin, ferait un parcours.
C'est l'homme qui a gâché le début de mandat d'Emmanuel Macron.
C'est l'arrivée de Alexandre Benalla.
Ces images qui avaient déclenché une tempête politique.
Cette interpellation violente, alors qu'il devait assister à la manifestation du 1er mai en simple observateur.
Je préférerais répondre à la justice.
Autant de sujets qu'on évoque ce soir avec nos invités avant de recevoir la patronne de l'humour français et un drôle de Belge au top.
Tu es la meilleure, je t'embrasse pas.
C'est Guillaume.
Je ne sens rien.
Moi je suis au top. Il m'est arrivé de regarder l'océan pendant longtemps en écoutant Michel Berger.
Je ne sais pas pourquoi.
Mais là, je suis en train de négocier pour qu'il y ait quand même pas mal de flashbacks.
Résultat, bah, je fais toujours rêver personne.
Maman, est-ce que le prince charmant existe? Bien sûr.
Toi, tu fais encore des spectacles?
Ouais, enfin, je parais. Enfin, un peu, ouais.
Putain, c'est super que t'aies continué, c'est génial.
Merci.
Florence Foresti se mobilise contre les violences faites aux femmes. Elle est ce soir notre invitée fil rouge. Guillermo Guise nous rejoint pour le dîner préparé ce lundi par le patron de la boîte à sardines. C'est à Marseille, Fabien Rugy, restaurateur et poissonnier. De la morue donc ce soir au dîner, Fabien?
C'est ça, tout à fait. Elle est là.
De la petite morue qui s'appelle de la sardine, évidemment.
Oui.
Boîte à sardines, c'est votre spécialité?
Tout à fait, c'est le nom de l'établissement. Et ce soir, on va s'amuser, on va vous travailler la sardine de façon différente.
Une déclinaison de sardines et une salade de pourpier et roquettes, c'est le menu de ce soir imaginé par Fabien Rugy. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Mais d'abord, Patrick, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a confirmé hier à Rouen sa candidature à la présidence de la République.
Oui, candidature qui sera soumise aux militants socialistes fin septembre et cette fois aux seuls militants puisque la réforme statutaire qui vient d'être adoptée a acté la fin des primaires ouvertes aux sympathisants comme celles qui avaient désigné François Hollande en 2011 et Benoît Hamon en 2016 avec des fortunes diverses. Là, Anne Hidalgo a toutes les chances de l'emporter face à son seul adversaire, l'ancien ministre et maire du Mans, Stéphane Le Foll, mais à l'issue d'un scrutin riquiqui, deux chiffres traduisent l'effondrement du PS. En 2006, 180 000 adhérents à jour de cotisation avaient participé à la primaire. Ségolène Royal avait obtenu 108 000 voix. Jeudi dernier, il n'était plus que 22 000 militants à voter pour le texte d'orientation de la direction. Le parti a fondu et Anne Hidalgo ne peut pas compter sur ce vote interne pour donner de l'élan à sa candidature.
Mais elle sera, Anne Hidalgo, la première femme investie par le PS dans la course à l'Élysée depuis Ségolène Royal.
Exactement, et dans cette élection pléthorique, pour l'instant, la seule femme à gauche, en attendant le ou la vainqueur de la primaire écolo fin septembre, une singularité qu'elle avait mise en avant lors de sa première élection à la mairie de Paris en 2014.
Je suis la première femme maire de Paris. Ouais. Bravo. Et j'ai conscience du défi que cela représente. Je serai la maire de cette ville qui ne triche jamais, ni avec ses colères, ni avec ses idéaux, ni avec son honneur.
Maire de Paris, atout ou handicap?
Question difficile. Alors c'est un atout parce qu'elle est, Anne Hidalgo, à gauche, l'une des plus capées, certes sans expérience ministérielle, mais maire de la première ville de France, la ville capitale, avec quelques 55 000 fonctionnaires municipaux. Un atout aussi à cause de la transformation de sa ville. Personne ne peut lui dénier son volontarisme et son action réformatrice en faveur d'un Paris qui respire, comme le dit l'un de ses slogans. Le handicap, c'est que cette métamorphose, comme Paris n'en a pas connue depuis des décennies, suscite des nuisances, des contestations, des oppositions très fortes. Les travaux incessants, la saleté des rues, les aménagements urbains ratés, les trafics de drogue et des salles de shoot, la réduction de la voiture à marche forcée, la cohabitation toujours anarchique entre auto, vélo, moto, trottinette, piéton. Je résume là les principaux griefs, hein, c'est pas le sujet du papier, mais tout cela a créé des sujets de dispute, des clivages qui font qu'Anne Hidalgo est autant détestée par une partie minoritaire des Parisiens qu'Emmanuel Macron par une partie des Français. Pas pour les mêmes raisons, c'est pas de même nature, et vous me direz que Paris n'est pas la France et qu'Anne Hidalgo porte un projet pour le pays, mais on peut parier qu'au fil de la campagne, si Hidalgo émerge, la gestion de Paris ne restera pas qu'une affaire parisienne. D'ailleurs, dans les sondages de popularité, aujourd'hui, Anne Hidalgo est parmi les personnalités de premier plan, l'une de celles qui suscitent les opinions les plus hostiles derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. 59% de jugements négatifs dans le dernier baromètre Ipsos. Est-ce son image de parisienne ou le bruit des critiques qui ont franchi le périphérique? En tout cas, pour l'instant, c'est l'éléphant dans la pièce. Son bilan parisien n'a pas été questionné dans ses premières interviews de candidate, mais on peut compter sur ses adversaires ou ses concurrents pour faire sortir Paris de la bouteille.
Bonsoir Serge Raffi.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de l'Obs et auteur d'un livre consacré à Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin, aux éditions Bouquin et qui sort à Point Nommé. Alain Minc, essayiste, économiste. Ma vie avec Marx, c'est le titre de votre tout dernier ouvrage paru chez Gallimard. Vous êtes évidemment un fin connaisseur des coulisses du pouvoir et du monde politique. Vous auriez même conseillé à Anne Hidalgo d'attendre 2027 pour se présenter. C'est ce que révélait Paris Match en juillet dernier. Vous êtes sceptique. Est-ce que vous l'êtes toujours ?
Donc, je vais vous répondre différemment. J'ai été très fier quand Manuel Valls était Premier ministre et Anne Hidalgo, maire de Paris. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui pouvait avoir comme chef de l'exécutif et comme maire de la principale ville deux immigrés devenu français et qui était vraiment l'exemple absolu de l'assimilation. C'est un pied de nez dont M. Zemmour devrait s'inspirer. Une fois qu'on a dit ça, j'ai donc un grand respect pour son itinéraire personnel. Reste que le chat de l'aiguille est étroit politiquement et que surtout j'ai été un peu déçu hier à cause de l'estime que j'ai pour elle par la première bêtise qu'elle a dite, c'est-à-dire le doublement des salaires des fonctionnaires. Et j'ose espérer quand même qu'elle nous en sortira pas beaucoup comme ça. Des enseignants.
Parce que c'est irréalisable.
Elle fera les fonctionnaires au coup d'après.
Ah, mais parce que c'est irréalisable.
On voudrait tous que les profs soient payés trois fois plus. C'est irréalisable. Donc si elle veut incarner la social-démocratie dans ce qu'elle a de respectable, bon, il faut revenir au cercle de la raison, comme on dit aujourd'hui.
Il n'empêche, pas plus mal de faire une proposition qui fait parler, qui du coup déclenche le débat, oblige Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à s'en mêler, à dire que ça coûterait trop cher, évaluant ça à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est pas plus mal finalement, elle fait parler d'elle directement.
Oui, bien sûr, c'est le grand classique des campagnes électorales, c'est-à-dire qu'on prend un thème qui crante, qui pose problème, qui polémise, qui va occuper le terrain, si on peut dire. Et là, elle a un peu occupé le terrain. Moi, je suis assez d'accord quand même avec Alain Minc. C'est-à-dire, c'est un peu irréaliste. Rappelez-vous, François Hollande, en 2017, pendant la campagne présidentielle, que Pierre connaît bien, il avait quand même parlé de « mon ennemi, c'est la finance ». Et c'était une opération politique clairement montée, pour faire baisser...
2012.
Et là, c'est une opération politique.
C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut cranter, il faut occuper le terrain. Mmh. Alors, ceci dit, moi, ce qui m'a intéressé chez elle, évidemment, je ne suis pas, moi, un polémiste classique. Je raconte des histoires. Donc, ce qui m'intéresse chez Anne Hidalgo, et ce que j'ai écrit, c'est une histoire. Son histoire est un roman extraordinaire. C'est un roman, moi je m'y attendais pas d'ailleurs. Au début, je ne vous cache pas que j'étais moyennement passionné. Je ne croyais pas trop à une réussite possible pour elle, à une candidature présidentielle. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur elle sans même penser à ça du tout. Et puis c'est en avançant, en voyant l'incroyable histoire de cette femme, que je me suis dit, il se passe un truc, elle est en titane, il y a quelque chose.
Vous avez vu la force de son ambition ?
Oui, mais c'est une ambition qui n'est pas née, comme souvent chez les hommes politiques, à 16 ou 18 ans, parce qu'ils sont nés quelque part.
C'est au fil de son parcours.
Bien sûr, c'est un parcours d'obstacles absolument inouï qu'elle a vécu. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis surtout, un parcours de femme, c'est une féministe de la première heure. Moi, j'ai découvert les premiers moments où elle allait place des Célestins dans la première librairie des femmes en France. Elle avait 16 ans. Elle s'intéressait déjà à tout un tas à Gisèle Halimi, à tous ces gens-là, à Simone Veil, etc. Elle a toujours été habitée par cette question de l'égalité homme-femme. Son parcours, il est très lié à tout ça.
Juste pour revenir aux chiffres que citait Patrick sur le fait qu'elle est parmi les personnalités de premier plan qui suscitent les opinions les plus hostiles. Ça, c'est un sacré handicap.
C'est ça qui est intéressant, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut en même temps être adulé par une partie de la population et en même temps détesté. Comment on peut prendre autant de coups sur sa gestion parisienne et en même temps être réélu? Donc, toutes ces questions-là, il y a un mystère Hidalgo autour, autour d'elle.
C'est une entrée en campagne calme, presque zen, qu'a voulu faire la maire de Paris. Hier soir, aux 20h de France 2, elle n'élevait jamais la voix, même pour parler de l'état de la France, qu'elle juge beaucoup plus qu'inquiétant.
Je pense qu'il faut porter un message, porter des solutions nouvelles parce que le pays ne va pas bien et parce qu'il y a beaucoup de désespérance, de désespoir, beaucoup de souffrance aussi. Une France où beaucoup de gens ne se parlent plus, où beaucoup de gens ont perdu confiance. Une France dans laquelle il y a beaucoup de mépris pour ceux qui ont été les premières lignes et qu'on ne considère pas. Les 5 années qui viennent de se passer auraient dû servir à cette grande transformation et à refaire du dialogue. Et le pays est divisé comme jamais.
À la mangue.
J'ai toujours été surpris par l'hostilité viscérale d'Anne Hidalgo pour Macron, qui a commencé par un discours aberrant le jour de l'intronisation royale de Macron, c'est la France. Le roi va à l'hôtel de ville et elle lui donne un cours de maîtresse d'école, dont je pense qu'elle le regrette.
Elle fait un discours d'opposante.
Elle fait un discours d'opposante. Et donc je trouve qu'il y a derrière ça, parce qu'on en a dit beaucoup de bien, mais il y a chez tout le monde quand même une balance de qualité et de défauts, une espèce de haine bizarre de classe. Je veux dire, Macron, c'est pas un aristocrate, c'est un type qui s'est fait scolairement à la force du poignet. Et donc, ça m'a un peu déçu de sa part et je regrette beaucoup qu'elle n'ait pas cherché le compromis historique, comme disaient autrefois les communistes italiens, avec lui.
Vous l'évoquez dans ce livre, hein, l'hostilité tenace qu'elle voue à Emmanuel Macron.
C'est très, très intéressant le discours d'investiture parce que j'ai eu exactement la même réaction qu'Alain Minc au moment où ça s'est produit. Et puis en écrivant le livre, je lui avais dit d'ailleurs, je lui avais dit à Anne Hidalgo, mais c'est hallucinant cette réaction aussi violente. Ah, tu trouves que j'étais violente? Je lui ai dit, bah ouais, quand même, c'est le président de la République. Il dit, c'est marrant parce que moi, j'ai apaisé le jeu, au contraire, parce que certains de mes conseillers me disaient d'y aller mollo. Je lui ai dit, ah bon, tu vas mollo, c'est ça. Et j'ai revu cette scène-là, et je le raconte dans le livre, après, pendant l'écriture du livre, et là, j'ai découvert un truc incroyable. J'ai dit, mais j'ai rien compris, en fait, au film. C'est-à-dire que dans cette période-là, elle y va parce qu'elle a déjà choisi. Elle sait qu'elle va lui rentrer dans l'art pendant tout son quinquennat. C'est une stratégie politique délibérée, organisée, avec cette idée qu'à Paris, on est des rebelles, on est contre le pouvoir central, etc. C'est une stratégie politique complètement pensée. Et j'ai revu la scène.
Ce qui s'était amorcé autour de la loi Macron et de l'ouverture des commerces le dimanche.
Même avec Hollande aussi.
Question sur laquelle elle a fini par capituler.
Et vous regardez cette scène, vous verrez, elle est assez amusante. Juste une seconde, il y a eu une guerre autour de la Marseillaise entre eux.
Ah oui.
C'est-à-dire que quand la Marseillaise est entonnée à la fin des discours, elle chante à pleine voix. Macron ne dit rien, il ne chante pas, il regarde les images, il voit les caméras, il comprend qu'elle est en train de gagner la bataille de la Marseillaise et il se met à susurrer la Marseillaise.
Vous êtes prisonnier de votre idole.
Le
jour de l'intronisation de Macron,
c'était Macron qui était intronisé.
C'est l'inverse. Je l'avais trouvé épouvantable. Simplement, je pense que c'était une tactique.
Mais vous décrivez une femme avec un caractère.
Mais qu'elle magnétise un vieux singe comme vous prouve qu'elle est très forte.
Vous êtes magnétisé quand même, Serge Rassi.
Parce que si vous avez lu le livre, c'est pas du tout...
magnétisé.
C'est pas un livre magnétisé quand même, parce que je raconte quand même les coups qu'elle prend, la manière dont
elle
commet des erreurs terribles pendant
sa gestion. Et les coups qu'elle donne, notamment la guerre qu'elle mène à Emmanuel Macron et qu'elle a menée pendant le quinquennat, et pourtant le ton très placide, cette colère volontairement retenue qu'elle a présentée hier aux 20h de France 2 et qui est surjouée, c'est pas son véritable tempérament.
Cela dit, il faut rendre hommage aux deux. Ils se sont arrêtés au premier sang pour protéger les Jeux.
Les Jeux de 2024.
Il y a eu une petite bagarre quand même.
Oui,
pour répondre à ma question, Serge
Rassi, ils ont su s'arrêter.
Sur justement le style, cette colère contenue, le ton presque placide qui lui est parfois reproché d'ailleurs. On lui dit qu'elle devrait prendre un coach pour changer de rythme, de phrasé, de quasi monotone et monocorde d'Anne Hidalgo. C'est une stratégie ?
Ah, pas du tout, non. Le problème d'Anne Hidalgo, c'est que même quand elle a tort, elle n'écoute pas ce genre de conseils. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il ne faut absolument pas être autre chose que ce qu'on est. Donc elle ne joue pas. Alors c'est vrai, j'en raconte le livre, sur le ton épouvantable qu'elle a parfois, cette voix nasillarde, c'est quand même très dur parfois. Mmh. On se dit, mais elle n'y arrivera jamais avec une voix pareille, etc.
Mais
elle ne lâche rien là-dessus. C'est une femme en titane, elle est têtue. En espagnol, on dit « es una cabeza dura ». Elle est comme ça.
Tête de pioche, oui. Je ne sais pas quelle est la traduction.
C'est à peu près ça.
Tête dure.
Tête dure, mais elle est comme ça. Donc, c'est d'ailleurs sa limite, je pense. C'est-à-dire que dans la période actuelle, la grande question, c'est est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est dans l'apaisement ou quelqu'un qui est dans l'autorité ? Or, aujourd'hui, j'attends de voir.
Peu d'hommes politiques d'aujourd'hui et de premier plan trouvent grâce, on peut le dire, aux yeux d'Anne Hidalgo. Il y a une exception notable, c'est Jacques Chirac, même s'il n'est plus là. Vous racontez dans votre livre, Serge, une rencontre secrète en 2014 entre la toute nouvelle maire et celui qui a bien tenu la maison pendant 18 ans.
Elle a une vraie relation incroyablement forte avec Jacques Chirac. Le mystère de cette relation est compliqué parce que tous les Chiraciens aujourd'hui ne le disent pas encore complètement, mais la soutiennent. Jean-Louis Debré la soutient. Alors, c'est pas un soutien, Alain Minc dirait que c'est pas un soutien très important, mais il y a un certain nombre de dans la campagne de 2014, Madame Bernadette Chirac l'a pratiquement soutenue. Il y a des choses très étranges. Jean Tiberi est totalement enamouré. Elle a organisé une opération extraordinaire à la mairie.
Alors pourquoi elle reproche à Macron d'être de droite
à Chirac,
mais elle est plus à droite.
Mais je viens de dire, c'est pour ça que... Là où vous avez tort, c'est que je ne suis pas magnétisé. Je dis que c'est purement politique. C'est-à-dire que ce sont des stratégies politiques. La haine qu'elle a de Macron, c'est pas une vraie haine, c'est une posture politique. C'est vrai qu'au bout d'un moment, elle finit par croire...
En ce qu'elle dit, oui.
À ses sentiments.
Il y en a un qui n'est pas du tout magnétisé par Anne Hidalgo, c'est Jean-Luc Mélenchon, et il l'a redit ce matin.
Qu'est-ce que vous pensez d'Anne Hidalgo, de cette candidature ?
Rien, pour être honnête, rien.
Elle va venir vous mordre les mollets, là, dans le socle électoral, Madame Hidalgo.
C'est possible, mais il y a moins d'imbéciles qu'elle le croit parmi les gens qui votent pour moi. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous leur proposez un truc dont ils savent eux-mêmes que ça ne tient pas debout. Ben, ils se disent, elle dit ça pour m'appâter, puis demain, elle fera autre chose.
Référence donc à cette mesure, cette promesse en tout cas pour les enseignants. Mes électeurs ne sont pas des imbéciles.
Là, même Mélenchon trouve que ça marche pas.
Il oppose carrément les électeurs.
Il trouve que c'est démagogue.
Ouais. Mais ce sont des gauches qui semblent irréconciliables quand on voit ça.
Oui, c'est pour ça que le cheminement pour elle est étroit. Mais au fond, est-ce que derrière, elle ne vise pas aussi le coup d'après ? Si elle fait 14-15, qui est une défaite honorable, elle se met en situation d'être incontournable au moment où il y aura une vraie alternance.
En tout cas, il y a le PS qui devrait la soutenir, mais Patrick le disait dans son édito, le PS, c'est plus que c'était. Il manque quelqu'un pour mener la gauche à la présidentielle. Non, il manque François Mitterrand.
À mon avis, elle vote Sandrine Rousseau. Je veux dire, si la candidature verte est Sandrine Rousseau, elle a une réserve électorale formidable. Pour elle, la catastrophe, c'est si Jadot est élu.
Mmh. Il lui manque un François Mitterrand, il lui manque un Karl Marx ou pas à Hidalgo.
Si elle est social-démocrate, c'est une enfant de Marx. Je ne suis pas sûr que pendant la campagne, elle le revendiquera.
Vous lui conseillez de lire...
C'est pas une grosse lectrice de Marx. Hein.
Ma vie avec Marx. Vous dites qu'il est le seul Marx à avoir compris les arcanes du capitalisme et de l'économie de marché. Vous êtes le dernier des marxistes français, en fait, Alain Marx.
Oui, j'ai toujours dit que j'étais le dernier des marxistes français. Comme je crois que je connais assez bien le fonctionnement du capitalisme, je sais que c'est celui qui l'a le mieux compris. Et que, de ce point de vue, les capitalistes devraient soigneusement lire Marx. Ouais. Je connais d'ailleurs un grand capitaliste qui a décidé d'offrir ce petit bouquin à nombre de ses quatre dirigeants pour leur montrer que le monde est plus compliqué qu'ils ne le croient.
Est-ce que Anne Hidalgo devrait lire ce livre et surtout elle qui a l'oreille des milliardaires.
Elle lit toute l'œuvre d'Alain Minc.
Non, elle n'aurait pas le temps de faire campagne.
Elle qui a l'oreille des milliardaires, ça
raffine. Une chose, Marx, Anne Hidalgo n'a pas tellement lu Marx. C'était pas sa tasse de thé. Elle était vraiment dans le sillon autogestionnaire, Edmond Maire, la CFDT, etc. Elle a toujours été sur une ligne CFDT, Anne Hidalgo.
Mais elle a l'oreille des milliardaires, pour en venir au capital, Anne Hidalgo.
Quand on est maire de Paris, forcément, quand il y a des opérations immobilières qui sont montées, des opérations urbaines, etc., qui impliquent des investissements lourds avec des grands capitalistes, je suis d'accord avec Alain Minc, Marx a pensé le capitalisme, il n'a jamais pensé qu'il fallait le détruire, mais il fallait l'accompagner jusqu'à son extinction. Ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord là-dessus.
Bon, on va laisser la
Marx
gauche
tranquille.
Et Anne Hidalgo et Marx pour l'instant. De l'autre côté, côté extrême droite, Marine Le Pen a donc ce week-end passé la main à son numéro 2, Jordan Bardella, pour lancer sa campagne présidentielle, avec dans l'ombre Éric Zemmour, qui est en tour de chauffe ou en pré-campagne, qui ne dit pas encore s'il sera candidat, mais difficile pour les militants et les dirigeants du parti hier à Fréjus de l'oublier, comme l'ont constaté sur place pour C'est à vous, Louis Amar et Anaïs Recouli.
C'est un très bon polémiste, ses idées sont très bonnes, mais il n'a rien à faire dans l'élection présidentielle.
Est-ce que ça serait un bon candidat ?
Oui, je pense que ça peut être un bon candidat, mais bon, chacun a sa place quand même. Marine a quand même l'expérience.
Il n'a pas la carrure pour être président de la République. Il n'a pas d'équipe derrière. Un président, c'est aussi une équipe. Marine Le Pen a une équipe, et une équipe présidentielle.
On peut partager un certain nombre de ses analyses. Maintenant, je n'ai pas entendu de solution. Voilà, je n'ai pas entendu de projet politique. Sauf que quand on se présente à l'élection présidentielle, c'est pour mettre en œuvre un projet.
Qu'est-ce que vous diriez à Éric Zemmour si vous l'aviez face à vous ?
Je lui dirais, ne déconne pas, Éric. On a une chance incroyable de pouvoir battre Emmanuel Macron. Si on a les mêmes objectifs, si on fait les mêmes analyses, travaillons ensemble. Viens, rejoins-nous.
Qu'est-ce que vous entendez de là-dedans ? Il se rassure à bon compte ou il y a de la fébrilité quand même ?
Oh bah, il y a de la fébrilité, c'est évident. Bien sûr qu'il y a de la fébrilité. C'est évident, moi je sais, Emmanuel Macron, je pousserai au maximum la candidature d'Éric Zemmour.
Je suis en total désaccord avec vous. Mais je serai en total désaccord avec vous.
Simplement parce qu'il va forcément déranger la candidature de Marine Le Pen et qu'il va forcément lui piquer des voix.
Alors s'il ramène Marine Le Pen à 20% et qu'il met là une situation où le candidat ou la candidate de la droite démocratique est en face de lui, il risque de perdre. Il ne faut jamais oublier que la meilleure adversaire pour lui, c'est Marine Le Pen. Donc toute voix enlevée à Marine Le Pen pose un problème à Macron.
Oui, mais ce n'est pas gagné encore, ça. Ce scénario-là, on en est très loin.
Je n'ai pas dit c'est gagné, mais sa présence la ramène vers 20%.
Alors, d'abord que la droite s'organise un peu mieux, parce que là, pour le moment,
vous
il n'a pas l'air
un candidat
très inquiet par la droite.
Vous n'aurez pas deux candidats.
Ben, j'espère, moi, qu'il
en tout cas, quand on entend Emmanuel Macron, là, dernièrement, pas un mot sur Marine Le Pen, pas un mot sur Zemmour, pas un mot sur Hidalgo. Lui, il n'y a que la droite. Ce serait la droite le pire scénario pour lui ? Est-ce qu'il a tort de penser ça ?
Mais s'il y a un ou une candidate de droite au deuxième tour face à lui, c'est une élection extraordinairement difficile. Tandis que face à Marine Le Pen, c'est quand même, malgré tout, Dieu merci, un boulevard. Et donc, si Zemmour fait passer Marine Le Pen de 26 à 20, il crée une incertitude. Donc, de ce point de vue, tous ceux qui disent que les macronistes
sont
pour Zemmour...
La droite, hein. Il ne fait pas forcément monter
non,
la droite.
Non, ils seront tous à 20%. Une droite qui a voté 20% pour François Fillon, elle arrivera bien à donner 20% au candidat ou à la candidate de droite.
Éric Zemmour ou le refus de la complexité française, c'était le titre de l'une de vos tribunes sur le site du Figaro.
Oui, j'ai répondu dans le Figaro magazine. D'ailleurs, c'était assez drôle la question qu'on m'a posée. On m'a dit, répondez-lui parce que vous êtes chimiquement pur son antithèse. C'est à la fois vrai et faux, parce qu'on est tous les deux des enfants de l'assimilation. Mais lui, il est allé chez Maurras, donc je préfère mon assimilation. Non, je trouve que Zemmour, c'est la version chic, très bien écrite, du Yaka Faucon. C'est dit avec des imparfaits du subjonctif, mais à la fin, c'est quand même Yaka Faucon.
Alain Minc, Ma vie avec Marx est paru le 9 septembre aux éditions Gallimard. Merci d'être venu ce soir en parler, même brièvement, sur le plateau de C'est à vous. Serge Raffi, Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin. Jeudi 16 septembre aux éditions Bouquin. Vous restez avec nous, Serge Raffi. On continue à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouabsi. Bonsoir Mohamed. C'est la polémique du week-end. Éric Zemmour qui souhaiterait faire interdire les prénoms non français s'il était élu président de la République, des propos qui ont provoqué de nombreuses réactions.
Oui, pour Éric Zemmour, Babette, il aurait fallu que je m'appelle Michel ou Henri Bouafsi pour pouvoir faire cette chronique ce soir. Le moitié éditorialiste, moitié candidat probable à l'élection présidentielle, elle a déclaré ce week-end que les prénoms d'origine étrangère et surtout musulmane pour tout enfant né en France seraient interdits s'il était président de la République. Des propos qui ont pu choquer ou blesser.
Ce sont des propos qui blessent, ce sont des propos qui heurtent. Et moi, je vais vous dire, quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, et même quand on est un polémiste ou un journaliste, on ne fracture pas, on ne divise pas. Et quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, on rassemble. On rassemble les Français. Et ce n'est pas avec ce type de propos qu'on peut rassembler.
Le polémiste oublie que le prénom d'un homme ne fait pas sa valeur. Éric Zemmour voudrait rétablir la loi de Napoléon de 1803. Seuls sont autorisés les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Fait intéressant de l'histoire, cette loi voulait mettre fin à l'explosion des prénoms donnés en hommage aux personnages révolutionnaires de 1789, comme Marat. Donc pas de lien direct avec des prénoms étrangers. Autre rappel historique, Lazare Carnot, grand officier des armées françaises de la Révolution, donnera le prénom de Sadi à son fils en 1796 en hommage à un prince persan. Le petit-fils de Lazare Carnot, un autre Sadi Carnot, deviendra président de la République en 1887. Depuis samedi soir, plusieurs artistes ou écrivains rappellent plutôt la richesse du métissage culturel au fil des siècles.
C'est absolument stupide d'étaler son racisme à partir des prénoms, parce que finalement, on peut porter un prénom François-Henri ou Jean-Jacques ou n'importe quoi, et avoir les pires comportements. La France, la culture française a été tellement enrichie par des Pablo, des Mohamed, des Ahmed, des René. La vie, elle est faite plutôt d'apports multiples. C'est ça qui fait que nous sommes vivants. C'est la mort qui est blanche. C'est la mort qui est rectiligne et qui ne bouge pas. Alors, s'il veut la mort de la France, ben, il n'a qu'à appliquer son programme tout seul.
En 2020, selon l'INSEE, le prénom Mohamed n'arrive qu'en 18e position du classement des prénoms le plus donné, loin des fake news qui le placent sur le podium. Et l'indignation concernant ses propos dépasse la religion musulmane.
Le prénom ne définit pas la vocation. Et je vais vous dire, c'est même une façon de nier toute l'histoire de quelqu'un. Quand c'est, comment vous dites, Mohamed, Karim, le prénom que vous avez proposé, quand il gagne des médailles d'or aux Jeux Olympiques, quand ils remportent des Coupes du Monde de football, on ne vient pas leur dire « vous n'êtes pas français et ça ne va pas ». On est heureux, on va dans les rues pour fêter cette victoire parce que c'est notre victoire. Donc si c'est notre victoire, c'est qu'ils sont autant l'expression de ce qu'est la République, de ce qu'est la France, que quelqu'un qui s'appellerait Jean, Pierre, Christophe ou Haïm.
Serge Raffi, est-ce que le prénom d'un homme peut en faire sa valeur? Et surtout, est-ce qu'un prénom sur une pièce d'identité est aussi importante que la vie que l'on peut construire derrière?
Je vais vous répondre par mon expérience personnelle. Un de mes meilleurs copains, il s'appelle Rafik Smati. C'est d'origine algérienne. Il a créé un mouvement politique qui s'appelle Objectif France. Et il ne peut pas être plus intéressant de voir comment on peut conserver son prénom et être quelqu'un de très intégré, d'être au contraire complètement habité par l'amour de la France, etc. Tout ça est absurde. Mais pourquoi? Parce que Zemmour vit dans un autre monde. Zemmour, il est dans la nostalgie d'une autre époque. Il ne veut pas accepter cette idée basique que la France, aujourd'hui, elle est diverse. Elle l'a toujours été, d'ailleurs. Les vagues d'immigration ont existé de tout temps, etc. Les Italiens, rappelez-vous, le racisme qu'il y a eu dans les premières vagues italiennes, les vagues espagnoles. Anne Hidalgo, elle a souffert du racisme anti-espagnol à l'époque, dans les années 60.
Elle porte un deuxième prénom
Anna.
Espagnol.
Elle s'appelle Anna.
Anna.
Elle s'appelle Anna Maria.
Et il a été francisé, entre guillemets.
C'est son père qui explique, d'ailleurs, le fait qu'elle devient française quand elle a 14 ans. Parce que les enseignants, à l'époque, surveillent ces deux filles qui sont des élèves assez bonnes. Et le père, qui parle très très mal français, il suit l'itinéraire de ses enfants, il veut qu'elles réussissent à l'école. Et les enseignants lui disent, il faut absolument que vos filles deviennent françaises pour qu'elles puissent bénéficier des grandes écoles, etc. Comme lui, il est obsédé par ça, il dit, bon, ils font une réunion familiale, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on dit, bon, on va naturaliser les deux filles. Et la maman, elle dit, on naturalise toute la famille, etc. Donc, pour revenir à la question de Zemmour, il faut qu'on arrête de lui donner autant la parole. Parce que Zemmour, quand on réfléchit bien, ce qu'il veut, au fond, c'est une espèce de... Sa vision, c'est une nostalgie de quoi? Au fond, du péténisme. C'est-à-dire qu'on quelque part, la meilleure période pour lui, dans sa fantasmagorie politique, c'est vraiment ça. Donc moi, personnellement, évidemment pas. Je ne peux pas accepter une absurdité pareille. Voilà.
Merci beaucoup, Mohamed Bouafsi. À la une également ce soir, après le scandale, le procès Alexandre Benalla est jugé depuis aujourd'hui pour avoir brutalisé un couple lors de manifestations du 1er mai 2018. Il est arrivé au tribunal accompagné d'une nuée de caméras, sans répondre aux sollicitations des journalistes, un procès qui n'aurait jamais eu lieu, sans les révélations signées Ariane Chemin, grande reporter au Monde, qui en juillet 2018 faisait éclater l'affaire Benalla. Ariane Chemin est ce soir notre invitée. Mariam, merci de votre présence ce soir pour revenir sur cette affaire, les enjeux de ce procès, mais d'abord le rappel des faits avec Émilie.
Oui, je vous propose de rembobiner juste un peu avant la révélation de l'affaire. Le 16 juillet 2018, la France est euphorique, optimiste. Plus de 8 Français sur 10 sont fiers de leur pays. Normal, les Bleus ramènent la coupe à la maison. Le président, on le voit, exulte. Cette joie-là va durer 2 jours, puisque le 18 juillet, c'est la date à laquelle vous, Ariane Chemin, vous publiez ce papier sur le site du Monde, accompagné de cette vidéo.
Oh, arrête ! Arrête, putain ! Oh ! Regardez bien sa tête ! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre ! Regardez bien, il l'a tabassé par terre !
Sa tête, les Français, nous tous la découvrons. On découvre Alexandre Benalla, son visage derrière la visière d'un casque de police. Et en même temps, on découvre que cet homme n'est pas du tout policier, mais chargé de mission à l'Élysée. Un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Parenthèse, il était d'ailleurs présent lors de la parade des Bleus après leur victoire au Mondial 2018. La vidéo de la contre-escarpe déclenche alors une enquête du parquet de Paris. Et l'affaire Benalla va devenir très vite les affaires de Benalla, parce qu'on va découvrir qu'il a été l'auteur d'autres violences ce même 1er mai à l'encontre de 2 autres manifestants au Jardin des Plantes, qui sont d'ailleurs partie civile dans ce procès. On découvre qu'Alexandre Benalla était armé lors de ses déplacements grâce à ce selfie. Or, il n'avait pas de permis pour port d'armes. Lui dit que ce n'était pas une vraie arme, mais un pistolet à eau. On découvre enfin qu'il s'est servi de passeport diplomatique dans le cadre de ses déplacements privés, alors même qu'il avait été mis à pied, puis licencié par l'Élysée. L'Élysée qui a bien tenté d'éteindre les braises avant même que le feu ne prenne, mais c'est raté. Alors qu'il était resté silencieux pendant plusieurs jours, une semaine après la révélation de l'affaire, on est le 24 juillet 2018, et Emmanuel Macron s'adresse à ses troupes lors d'un pot de fin de session parlementaire, et il opte pour la riposte.
Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher.
Bien plus tard, lors de la conférence de presse du 25 avril 2019, soit presque un an après ce qui était devenu l'un des plus gros scandales de son quinquennat, Emmanuel Macron va dire aux journalistes qu'il n'a aucun regret. Pourquoi est-ce qu'il a toujours défendu Alexandre Benalla ?
C'est peut-être le point commun entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, c'est qu'il reconnaît rarement qu'il a eu tort. Regardez, là, il est allé rendre visite à Didier Raoult et maintenant il dit c'est un formidable médecin, un grand scientifique, alors que quand même, Didier Raoult a accumulé des erreurs. C'est vraiment une particularité, je pense, d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, en fait, cette histoire, c'est toujours intéressant, on ne va pas revenir sur les détails, c'est intéressant toujours de la regarder 2 ou 3 ans après. En fait, cette histoire, elle lui colle un peu comme un sparadrap, parce que y compris ces petites phrases, quand il dit qu'ils viennent me chercher, on voit que 6 mois plus tard, ça devient le slogan des Gilets jaunes. Ils ont ça dans le dos, beaucoup de manifestants le portent sur le t-shirt, sur les pancartes. Un certain samedi de décembre 2018, ils vont jusqu'à monter sur l'Élysée pour prendre l'Élysée, parce qu'ils prennent Emmanuel Macron au mot. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre chose intéressante, là, on parle de violence. À l'époque, le vocable violence policière, c'était encore un sujet de guerre entre l'Élysée et les médias, notamment. Hein. Emmanuel Macron disait « Je n'accepte pas ce mot, violence policière. » Aujourd'hui, c'est passé dans le langage courant. Et c'est peut-être la première violence policière emblématique du quinquennat.
Il l'a protégé, Emmanuel Macron, et il l'a défendu. Est-ce que pour autant, il l'a protégé ?
En tout cas, ses équipes l'ont protégé. C'est l'évidence, puisque à partir du moment où vous avez un conseiller, en l'occurrence Ismaël Emelian, qui fabrique des vidéos pour essayer de le disculper, à partir du moment où vous avez des services de police qui lui procurent les images pour essayer d'éteindre l'incendie, oui, c'est de la protection. Alors évidemment, toute la question de savoir jusqu'où c'est remonté. Est-ce que c'est l'entourage d'Emmanuel Macron ?
Et surtout, pourquoi on a l'impression que tout le monde est avec lui, en fait ? Tout le monde est de son côté
Mais parce qu'Emmanuel Macron, je pense, quand il dit, par exemple, s'il y a un responsable, c'est moi, il veut dire, moi, je ne suis pas l'ancien monde. L'ancien monde, c'était la République des fusibles. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout comme eux. Je ne suis pas comme Chirac, je ne suis pas comme De Gaulle, je ne suis pas comme Mitterrand. J'endosse tout, j'assume tout. Et puis, évidemment, il va le regretter.
Cette affaire, elle a marqué un tournant dans le quinquennat. C'est la première véritable tâche sur le CV de l'exécutif. Et puis, c'est un tournant aussi dans la relation qu'Emmanuel Macron entretient avec les médias, puisqu'il dénonce le pouvoir médiatique dans cette affaire. Et la défiance s'est vraiment accrue avec les journalistes à ce moment-là.
Oui, il y avait déjà un petit air du temps un peu populiste, où évidemment les médias étaient responsables de tout, et beaucoup de candidats avaient surfé dessus. On s'en souvient, évidemment, Marine Le Pen, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Il était un peu le candidat qui faisait exception avec François Hollande, je dirais. Et là, voilà, il verse dans l'anti-journaliste. Alors, peut-être qu'en plus, c'est accentué parce que pour lui, le monde, c'est l'ancien monde en lettres gothiques. Alors, ça l'énerve encore plus, je pense, mais voilà.
Toujours en juillet 2018, Alexandre Benalla est invité du 20h de TF1 pour dénoncer ce qu'il appelle une affaire d'été.
Bah, quand on voit la folie qui s'est emparée de cette histoire banale,
C'est pas banal.
C'est une histoire de droit commun, c'est banal, il se passe rien. J'ai entendu mon avocat dire que c'est une affaire d'été, je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a pas d'affaire d'État là-dedans.
Comment est-ce que vous, Ariane Chemin, justement, 3 ans plus tard, vous pourriez la qualifier, cette affaire ?
En tout cas, c'est un scandale d'État. C'est une affaire très française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis frappée, pour en avoir discuté pas mal avec des journalistes d'autres pays, allemands, anglais, c'est une histoire qui ne peut arriver qu'en France. Je pense qu'en Angleterre ou en Allemagne, le directeur de cabinet, tout de suite, il est démissionné, comme on dit. Et surtout, en fait, si
Le directeur de cabinet et Alexandre Benalla, qui
n'est que mis à pied 15 jours. Donc il est quand même très protégé. Donc ça, c'est quand même très français. Et finalement, Emmanuel Macron, il a réagi comme l'ancien monde.
Alexandre Benalla a toujours affirmé avoir été un simple observateur ce 1er mai, place de la Contrescarpe, agissant en simple citoyen qui a le droit d'interpeller des auteurs de violence. Il a même répété cet après-midi à l'ouverture de son procès. Voilà ce qu'il a dit à la présidence. J'étais surpris. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de positif pour la société en interpellant des délinquants. Et j'étais mise en garde à vue à la veille de mon mariage. Est-ce que c'est une ligne de défense tenable ?
Il a dit cet après-midi à l'audience, j'ai toujours voulu être commissaire de police, et c'est vrai, je pense. Et puis finalement, il a eu des propositions dans le privé, donc très vite, il s'est éloigné de ce chemin qui s'offrait à lui. Je pense qu'il n'arrive pas à se tenir. Quoi.
Il a joué au commissaire de police.
Il a joué, d'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il est déguisé. Il s'est déguisé en policier, il a cette part un peu enfantine, je pense.
Donc c'est une dérive assez personnelle.
Non. Je ne pense pas que ce soit une dérive personnelle. Ce serait une dérive personnelle s'il n'avait pas été protégé. Or, il a été protégé, donc on ne peut pas s'arrêter simplement à cette lecture, je pense.
Non. Émilie.
Je reviens sur l'affaire des passeports diplomatiques, qui est à mon avis aussi symptomatique du point auquel il se sentait protégé ou puissant, Alexandre Benalla, puisque c'est une affaire qui a lieu après vos révélations et après avoir été licencié par l'Élysée. Il est soupçonné d'avoir utilisé une 20aine de fois des passeports diplomatiques pour ses déplacements privés et même d'avoir produit un papier avec en tête chef du cabinet de la présidence pour obtenir un passeport de service. Comment peut-il penser à ce moment-là que ça va marcher ou que ça va pas se voir ?
Il est très débrouillard et c'est une qualité. Et d'ailleurs, pour le coup, son ascension, elle est très méritocratique. Hein. Il obtient ses stages tout seul, il se bagarre, il envoie des lettres. Bon, là, il continue un peu en dehors des clous. Et surtout, oui, il se dit jamais Emmanuel Macron me lâchera. Il pense ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ça bascule. Jusqu'à cette époque-là, tout le cabinet continue plus ou moins à le défendre. Et là, ils en ont marre. Vraiment, ils se disent, bon, allez, loin de nous.
Quand il a quitté l'Élysée, Alexandre Benalla a ouvert un compte Twitter. Je le suis, peut-être vous le suivez. Pendant pas mal de temps, pendant 2 ans à peu près, il jouait au troll. Dès qu'on attaquait Emmanuel Macron ou un proche, il y allait. Depuis quelques mois, approchant sans doute du procès, il se fait plus discret.
Il commente la vie politique souvent de manière fine. Par exemple, il disait faites attention, Anne Hidalgo n'est pas une candidate qu'il faut négliger. On ne sait jamais. Il l'a dit.
Et on voit
que c'est un homme de droite. Là, on le voit clairement. On ne savait pas forcément avant, mais là, on le voit bien. Et puis hier soir, il a aussi fait un petit tweet pour montrer qu'il regardait la télé, manière de dire je ne suis pas du tout inquiet par ce procès.
Il n'est pas inquiet par ce procès.
En tout cas, il essaye de le faire. C'est le message qu'il a voulu faire passer hier soir sur Twitter, je pense.
Vous n'êtes pas en contact avec lui depuis ?
Non, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je suis peut-être la seule journaliste de Paris qui n'a jamais rencontré Alexandre Benalla.
Il a vu beaucoup de monde. A raison.
Je crois qu'il a beaucoup reçu. Ouais. Mmh.
Depuis cette affaire, il a créé une société de conseil en sécurité au Maroc. Vous savez où en sont ses affaires ?
Je pense que c'est un bon chef d'entreprise, il a de l'entregent, mais il ne faut pas oublier aussi, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus en faire simplement un personnage de bande dessinée ou quelqu'un qui... Parce que c'est vrai qu'il est devenu... il a des mèmes, il a des t-shirts à son effigie, il est plus que ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a essayé de faire des affaires et que quand il est venu à l'Élysée, il le confiait à des proches, il disait je suis là au cœur du pouvoir parce que c'est là qu'on peut faire des affaires et des contacts et c'est là qu'on se fait un carnet d'adresses.
D'ailleurs, les sociétés qu'il a créées, il a, à un moment donné, il avait une double activité. Il y avait même à un moment donné des doutes
sur la manière dont les services marocains auraient pu le, comme on dit, le tamponner, puisque les activités qu'il avait au Maroc étaient quand même assez ennuyeuses pour l'État français. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le dossier, a été peu vu, parce que là, l'art des services secrets, c'est souvent de mettre un gros... Moi, ce que je trouve très intéressant, et je trouve le travail d'Ariane formidable, c'est qu'au fond, on a vécu un moment où cette affaire-là, c'est le symbole même des dérives du césarisme de Macron. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, il y a l'Élysée, et puis il n'y a plus de corps d'intermédiaire. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de maires, il n'y a plus tout ces, de syndicalistes, etc. C'est un danger énorme. Et cette affaire-là, elle révèle justement la gravité de cette posture politique dans laquelle il s'est enfermé.
Le procès Benalla qui durera 3 semaines, et on rappelle que 3 autres procédures judiciaires sont en cours, 3 autres enquêtes préliminaires qui concernent Alexandre Benalla. Merci beaucoup, Ariane Chemin, vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir,
Babette. Bonsoir à toutes. Au sommaire ce soir.
700 000 personnes de plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinées. Alors que la 3e dose arrive en EHPAD, l'inquiétude se porte aujourd'hui sur les Français non vaccinés parce que trop isolés. Le pape en Hongrie rencontre avec le très droitier Viktor Orban. On s'intéresse ce soir aux religieux 2.0. Ils se servent des réseaux sociaux pour passer un message plus ouvert. Et puis on dit qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. Est-ce que ça vaut pour ce chat suspendu dans le vide dans un stade américain? Ouais. Réponse à la fin du 5
à la une ce soir, la vaccination contre le Covid.
Et d'abord l'actualité avec le lancement de la campagne de 3e dose dans les EHPAD.
Une et deux et 3e dose du vaccin anti-Covid, elle arrive aujourd'hui dans les EHPAD.
C'est aujourd'hui que débute aussi officiellement le rappel des 3e doses dans les EHPAD.
Sachez que ce lundi 13 septembre marque officiellement le jour d'ouverture de la campagne de rappel vaccinal.
C'est aujourd'hui que démarre la campagne de rappel dans les EHPAD avec la 3e dose de vaccin.
Dans les EHPAD, parce qu'il s'agit du public le plus fragile et donc qu'ils étaient parmi les premiers à bénéficier de la vaccination. Une 3e dose bien reçue par les résidents. Il faut dire que la 3e fois, on se pose un petit peu moins de questions.
Je trouve que c'est normal, puisque j'ai eu les 2 premières.
On est passé par le biais du médecin traitant, qui a consulté les familles pour les résidents qui ne pouvaient pas cognitivement donner leur avis. Et le reste l'auront donné, tout le monde a été favorable à la 3e dose.
En accord avec les familles, vous l'entendez, comme pour les adolescents, finalement, les injections dans le cadre scolaire ont commencé aussi. On aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, 80% de la population a reçu une vaccination complète. C'est bien, mais parmi les 20% restants, un enjeu de taille, les personnes à risque isolées.
Nous restons pleinement mobilisés pour celles et ceux de nos concitoyens, 8 millions, qui n'ont pas encore reçu la première dose. Il faut aller les chercher là où ils sont, leur expliquer, nous déplacer, nous projeter dans les quartiers, dans les endroits, dans les territoires isolés où se trouvent des personnes qui ne sont pas forcément des opposants doctrinaires à la vaccination, mais ne disposent pas des informations suffisantes, sont à l'écart des processus de soins ou ont encore des inquiétudes qu'il nous faut impérativement lever.
11% des 75 ans et plus n'ont reçu aucune injection, 14% pour les Français atteints par au moins une comorbidité. Contraste, en traversant les Pyrénées, 100% de vaccination chez les Espagnols de plus de 80 ans, et ce depuis le mois d'avril. Une réussite qui s'explique par la proximité. Les Espagnols consultent surtout un réseau de centres publics de santé. Il y a des centres quasiment dans chaque quartier. Précisément, l'isolement social de certains Français, c'est un enjeu majeur pour le délégué général de l'association Petits Frères des Pauvres.
Je ne pense pas que les personnes non vaccinées soient des anti-vax. Il y a 2 problématiques importantes sur la question de la non-vaccination. Premièrement, chez cette population, l'isolement social. Mais on a également la question de l'agilité numérique qui est également importante. Pour prendre un rendez-vous, il faut aller sur des plateformes. Pour obtenir son pass sanitaire, il faut avoir un certain nombre de compétences qui sont des compétences aujourd'hui que l'ensemble de la population française n'a pas. Des bénévoles peuvent être de véritables tiers de confiance et avoir un véritable rôle éducatif pour justement faire que cette fracture numérique ne soit pas une fracture sanitaire.
Des bénévoles qui viennent en aide, le gouvernement envisage aussi de se servir du réseau de la Poste, réseau de proximité, à nouveau. D'un mot, la réussite espagnole s'explique aussi par une faible pénétration des idées anti-vax. Là-bas, c'est le pays le plus préservé d'Europe.
Chez nous, les manifestations anti-pass sanitaires faiblissent, mais il reste toujours des anti-vax.
Parfois gratinés, il faut bien le dire. Un exemple, Louis Amar et Anaïs Recouli couvraient la rentrée de Marine Le Pen à Fréjus pour C'est à vous, on en a parlé un peu plus tôt, mais sans reparler de politique ou de la présidentielle, parfois chez les militants politiques de terrain, les langues se délient. Il faut bien observer le visage de ceux qui ne parlent pas.
Après 5 ans d'Emmanuel Macron, la France est désespérée.
et l'assassinat des gens qui sont infectés d'un virus toxique. Moi qui suis scientifique, on ne sait absolument pas ce que ça va devenir.
Vous parlez des vaccins quand vous parlez de maladies qu'on injecte?
Oui, les jeunes filles.
Marine Le Pen, elle n'est pas anti-vaccin. Vous, parmi les militants Rassemblement National, est-ce que ce ne sont pas des boulets les gens qui pensent comme ça?
Moi déjà, je vais m'inscrire en faux, comparé, enfin, en façon de ce qu'a dit le monsieur, parce que ce n'est pas du tout l'avis général du parti. C'est pas l'avis...
C'est gênant d'avoir des militants pareils, non?
Alors, on ne va pas dire que c'est gênant. On va dire que des sortes de discours comme ça, c'est vrai que ça peut être embêtant dans certains cas.
Tous les grands professeurs disent que c'est dangereux, voire mortel.
Ça c'est typiquement le discours. Alors, je ne vais pas essayer de m'inscrire en faux contre nos militants, de débattre, mais c'est typiquement le discours d'une personne qui va s'informer peut-être sur Facebook, sur des choses comme ça.
Ah non,
c'est,
non,
ce
non,
qu'aussi, c'est aussi ce qu'on veut, c'est aussi ce qu'on veut combattre, nous, la désinformation, des choses comme ça.
Vous voyez bien qu'il y a plusieurs générations, plusieurs styles même de militants. Et une fois le micro éloigné, l'échange s'est poursuivi.
Mais il ne s'agit pas d'avoir de débat, c'est entre vous et moi.
Oui.
Je veux seulement vous informer que les jeunes femmes qui sont vaccinées, elles perdent. Ça détruit leurs ovocytes. Vous savez ce que c'est qu'un ovocyte?
Oui, mais ça, c'est des débats qu'on ne peut pas avoir.
Non, mais
parce que vous n'êtes pas qualifié.
Je suis parfaitement qualifié.
Vous n'êtes pas qualifié.
Bon, bon appétit. Moi, j'admets que je ne suis pas qualifié. C'est pour ça que je n'ai
pas
ces débats avec
vous. Pas moi.
Je crois qu'il y a des frites à la cantine. En plus, il vaut mieux aller déjeuner.
L'un des, non pas responsables, mais l'une des figures du Rassemblement National, Gilbert Collard, a séché Fréjus parce qu'il n'a pas de passe sanitaire et qu'il ne voulait pas se déplacer dans le...
Pas vacciné et refus de faire un test PCR, exactement. Le pape est en Hongrie.
Oui, c'est à Budapest que François démarrait hier une visite de l'Europe de l'Est. Le pape était accueilli cordialement à Budapest. Il faut dire que la ville est tenue par l'opposition. La réalité de la Hongrie de Viktor Orban, on le sait, c'est une ligne politique anti-migrant et homophobe. Ça n'a pas empêché au pape François de tenir un discours d'ouverture aux Hongrois.
Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione. Tanto attaccata alle sue radici. Ma la croce piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le sue braccia verso tutti.
L'Église n'est pas forcément aussi conservatrice qu'on pourrait le penser, les différents discours du pape pour le montrer, mais aussi une nouvelle génération de prêtres qui se sert des outils modernes, qui sort du discours dogmatique sur les réseaux sociaux aussi, comme le père Mathieu, star de TikTok avec plus de 600 000 fidèles, 626 000 abonnés précisément, 36 ans, jean basket et le ton assez libre.
Est-ce qu'on peut être gay et chrétien ? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché ? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous, les amis, non.
Est-ce que je supporte les personnes LGBT? Jésus-Marie-Joseph, j'espère qu'il va condamner tous ces débauchés. Oh, il va enfin nous dire ce qu'il pense des homos.
Des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché, il semble y en avoir un paquet. Alors à tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger?
Il tranche, hein, en tout cas, avec ce qu'on entend habituellement de l'Église catholique.
Je trouve qu'il a absolument raison, d'abord parce qu'il est très spontané, et pour parler de la vraie vie, on n'a pas besoin d'être docteur en théologie. Deuxièmement, il trouve le langage pour parler aux jeunes, il reste pas dans son Église, il va là où les jeunes se retrouvent, c'est actuellement les réseaux sociaux, et puis aussi sur le fond, mais il a raison, il faut que l'Église accepte l'homosexualité, il faut sortir du Moyen-Âge et de la culpabilité.
Le père Mathieu qui a donc le soutien du père Daniel Duigou, que j'ai appelé cet après-midi, vous venez de l'entendre, c'est un ancien journaliste, c'est aussi un ancien curé parisien qui avait pris l'habitude de bénir des unions homosexuelles. Alors l'avantage sur les réseaux sociaux pour le père Duigou, c'est que l'Église catholique peut adapter son discours, le moderniser, s'éloigner un petit peu du dogme.
Il faut changer notre regard et il faut que les prêtres de demain, s'habituent aux nouveaux moyens de communication. Vous avez vu au moment du confinement, lorsque dans un premier temps, il n'était pas possible de se rendre dans les églises et qu'il y avait une demande de messe, eh bien, les prêtres se sont adaptés en retransmettant les messes par YouTube. Plus que jamais, l'église doit être un lieu où l'on accepte le débat. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que va le pape François. C'est de s'ouvrir à l'avenir qui suppose que l'on va inventer le monde de demain.
Alors, je sais que vous en redemandez, je reviens au jeune curé de TikTok qui, clairement, lui, s'est très bien adapté à ces nouveaux moyens de communication.
Truc de ouf ou quoi? Regardez, j'ai retrouvé la fine équipe, là. C'est ceux avec qui on aime bien danser et tout, qui aiment bien embrasser les croix. Listen to me now.
Chicken.
message.
Vous pouvez retrouver le curé Mathieu, le père Mathieu, sur TikTok. Je vous ai promis, Babette, une image de chat. Est-ce que les chats retombent sur... Ah, je vois que Pierre Lescure attendait impatiemment
un chat
suspendu dans le vide, accroché à un simple câble à bout de force. Il a fini par lâcher ce chat que vous voyez dans un stade américain, c'était à Miami. Il a fini par lâcher, sauvé par un spectateur qui tenait, quel symbole, un drapeau des États-Unis. Il a été interviewé sur toutes les chaînes locales, ce monsieur,
voilà, pour avoir sauvé le chat. Le héros stade. Américain qui sauve des chats avec des drapeaux. Merci Mathieu Béliard. Il faut que je quitte ce monde. Je m'emmerde. J'ai acheté des sous-verres et une cigarette électronique et en plus je m'en sers. Je n'avais pas prévu que c'était ça la vie. Je ne suis pas adaptée à ce qui vient. Je ne veux ni vélo électrique ni bouffer des grillons et j'ai les cuisses qui se touchent. Le constat est hilarant. Il est signé Florence Foresti, la patronne de l'humour en France. Elle est ce soir notre invitée.
À la porte.
Bonsoir Florence.
Bonsoir Florence.
Vous allez bien?
Salut Florence. Bonsoir.
Asseyez-vous, je vous en prie, vous avez l'air surprise d'être là.
Bah oui, parce que tu sais, je me rappelais plus moi.
Comment c'était?
Bah oui. C'est bien, vous êtes
arrête.
Toujours bonjour.
C'est le premier plateau depuis combien de temps?
Oh écoute, n'exagère pas. Je sais pas, un an, j'en sais rien. C'est pas si vieux, tu vois.
Un studio de télé, des lumières. Oui. On est ravis de vous recevoir, surtout qu'on va passer une heure ensemble.
C'est trop.
Non,
bien.
C'est limite pas assez. Et c'est dingue comme on aime quand vous ronchonniez.
Bah, moi, quand je ronchonne.
Oui, on vous aime. Plus vous avancez dans en âge, plus
merci.
Vous ronchonnez, plus vous bougonnez.
J'ai bien fait de venir.
C'est quoi? C'est l'âge ou c'est l'époque qui vous rend ronchon?
Bah, c'est les deux, non? Ça va ensemble. Mais c'est bon signe. Il paraît qu'en vieillissant, il faut qu'on ait envie de quitter le monde. Non, mais c'est vrai, on n'est plus en phase avec les jeunes, avec les ados et tout. Et en fait, c'est pour ça qu'on lâche au bout d'un moment, on dit... T'imagines si on adorait, si on se sentait complètement en phase avec notre époque.
On voudrait plus jamais partir.
À mon âge, bah, on serait complètement... Enfin, on serait beaucoup trop malheureux de partir.
Mais c'est à combien de temps que vous avez envie de lâcher? De lâcher la vie, quoi, je veux dire.
Non, j'ai pas du tout envie de lâcher la vie, c'est une façon de parler. En fait.
Oui, parce que vous ronchonnez, parce qu'au contraire, vous aimeriez que les choses soient un peu différentes.
Oui, on en est tous là. Puis je crois que l'époque est balèze, celle-là, d'époque. Hein. On n'en a pas vécu les autres, mais celle-là, elle est canon. Hein. Parce que vous en pensez, mais on a fait fort. Hein. Et donc, oui, c'est normal de ronchonner. Enfin, je veux dire, de toute façon, le commun des mortels ronchonne parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets.
Mais c'est l'enfer ou pas tant que ça? C'est ce que vous disiez, d'ailleurs.
Moi, j'ai une vie extrêmement privilégiée, mais le monde qui nous entoure, c'est vrai qu'on a de quoi faire, on a de quoi dire, quoi, non? Vous êtes contente, vous? De votre maison? Enfin, je veux dire, si c'était une maison...
Non, elle ronchonne. On va pas se mentir.
Moi, avec l'âge, je ronchonne de plus
ronchonne
en plus.
On ronchonne beaucoup.
Mais je suis moins drôle que vous quand je ronchonne.
Non, allez savoir.
C'est la grosse différence.
Allez savoir.
On est ravis de vous accueillir, d'autant que vous êtes plus féministe que jamais. C'est pas un engagement qui date d'hier. Le féminisme, depuis toujours, ça traverse vos spectacles. Mais maintenant, cet engagement depuis 7 ans et depuis l'association que vous marrainez,
oui.
Une association qui s'appelle Women and Change.
C'est dur, hein.
Vous l'avez laissé galérer, c'est dégueulasse.
J'arrive, ma bête.
Women Safe and Children.
Ouais.
Comment?
En woman français,
safe.
Ça donnerait...
Dites que Women Safe and Children, c'est une extension, je vous expliquerai pourquoi.
On en parle longuement dans un instant. Il y aura L'œil de Pierre, la story de Mohamed Bouafsi, l'ABC de Bertrand Chameroy et le VU. Un gros programme.
Tellement de choses à voir.
Tellement de choses, restez avec nous. Florence Foresti vous attend. C'est dans quelques secondes. À peine le temps de dire ouf. Ouf, on est revenu.